Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon, Émile.
Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Version originale sur Aligre FM 93.1, comme chaque samedi à 19h. L'image comme engagement, c'est le titre de l'exposition qui donne à voir l'œuvre photographique de Marie-Laure de Decker jusqu'au 28 septembre à la Maison européenne de la photographie. Marie-Laure de Decker, reporter à l'agence Gamma, puis photographe indépendante. Photoreporter donc et forte personnalité de la photographie française du XXe siècle, Marie-Laure de Decker a immortalisé les grands événements de son époque tels que l'apartheid en Afrique du Sud, la guerre du Vietnam ou la dictature au Chili. Elle a aussi mis au jour des réalités souvent laissées dans l'ombre, comme la guerre civile du Tchad. Le Tchad, territoire qui est devenu par la suite son pays d'adoption. Cette femme engagée a défendu dans son travail de nombreuses causes comme les droits des femmes et l'anticolonialisme. Nous en parlons avec Victoria Arecheva, commissaire de l'exposition. Bonsoir, bienvenue à l'antenne d'Aligre FM.
Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation.
Vous êtes donc commissaire de l'exposition « L'image comme engagement ». Le titre est explicite, percutant, et le mot engagement a encore tout son sens, encore aujourd'hui, heureusement. L'exposition donc est construite autour de trois grands thèmes, la guerre à côté, les luttes de cœur et le regard en face. Elle donne à voir donc les photos prises par Marie-Laure de Decker durant les 30 dernières années du XXe siècle. Victoria Arecheva, vous soulignez donc dans le catalogue de l'exposition que Marie-Laure de Decker est aujourd'hui une figure absente des récentes anthologies et expositions collectives. Comment est-ce que vous expliquez cette absence ?
Alors oui, déjà, il était temps de faire cette exposition, je pense. C'est difficile de donner des raisons exactes de cette absence, de cette période d'oubli un peu qui a eu lieu plutôt dans les années 2000-2010. Je pense qu'en grande partie, parce que c'est une figure féminine, et il y a beaucoup de figures féminines qui sont restées à l'ombre, notamment de leur père masculin. Je pense qu'en partie aussi, ça dépend des caractères des photographes. Et je pense que Marie-Laure de Decker, c'était quelqu'un qui n'allait pas forcément toquer à toutes les portes pour montrer son travail. Je pense qu'il fallait venir toquer à sa porte.
Et aussi, les luttes armées ont été rarement abordées par des femmes photographes.
Oui, en effet, c'est une des rares femmes photographes de guerre des années 70-80. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. On a beaucoup de femmes photoreporters, mais dans les années, à la fin des années 60 et dans les années 70, il y avait très peu de figures, même si on peut dire que c'est une pionnière, même si avant, il y avait des femmes photographes dans les années 30, 40, comme Lee Miller ou Margaret Bourke-White, quand elle a commencé, c'était extrêmement rare.
Alors, il nous faudrait donc quelques éléments biographiques pour comprendre l'engagement de Marie-Laure de Decker. Je rappelle donc qu'elle est née en 1947 en Algérie. Elle a grandi dans une famille aisée, vous rappelez, donc Victoria Arecheva, encore dans le catalogue d'exposition, que sa mère est issue de la bourgeoisie lyonnaise et son père est descendant de la petite noblesse flamande. Alors, qu'est-ce qui la porte à s'intéresser aux luttes et qu'est-ce qui fait que cette fille de bonne famille se retrouve sur les lieux de guerre ?
Je pense que c'est d'abord une fille qui s'intéresse à l'image, à la photographie. Sa famille, justement très cultivée, c'est une famille qui aime les arts, qui aime la photographie, et elle grandit en regardant les images. Donc sa famille a beaucoup de livres de photos. Il y a aussi des amis de famille qui sont des photographes, notamment Marc Ribou, qui est un grand photographe et ami de la famille, donc il fait aussi une photographie il photographie Marie-Laure de Decker à 5 ans. Donc il y a quand même un milieu culturel qui la permet, qui lui permet de réfléchir à une carrière potentiellement artistique. Et ensuite, en ce qui concerne son engagement, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Le premier reportage qu'elle réalise, c'est la guerre du Vietnam. Et elle y va notamment pour entrer dans l'agence Gamma qui vient d'être créée. Et c'est une agence très masculine. Et pour rentrer dans l'agence, il faut faire un truc de garçon. Et donc, c'est comme ça que ça commence aussi.
Alors, ouais. Avant de parler donc de sa place au sein de l'agence Gamma, mais elle passe quelques temps également en Côte d'Ivoire.
Oui. C'est qu'elle est née déjà sur le continent africain, en Algérie. Et puis, quand elle a 5 ans, elle passe près d'un an en Côte d'Ivoire, où la famille suit le père dans sa mission professionnelle. Et c'est ses premiers souvenirs de beauté qu'elle découvre, de la nature, des gens, mais aussi la bêtise de colonisation. C'est vraiment la citation. Elle en parle dans les interviews, mais aussi dans l'autobiographie qu'elle a écrite, qui n'est pas encore publiée. Je pense qu'elle a cette injustice et ce racisme, clairement, qu'elle a pu observer, a pu être aussi un des moteurs de son engagement plus tard.
Elle voit vraiment les traces du colonialisme.
Absolument,
c'est ça. Alors, on sait aussi qu'on apprend aussi qu'à l'âge de 8 ans, elle quitte le foyer familial, donc à cause des difficultés scolaires. Et là, donc, elle éprouve aussi un besoin de liberté par rapport à l'institut scolaire dans lequel elle se trouve, qui est très enfermante, ça aussi, alors que la vie d'adulte va être complètement à l'opposé. C'est une vie de libre et de liberté totale.
Oui, d'ailleurs, elle dit qu'elle a passé plusieurs années dans des pensionnats religieux assez stricts, et que ces années un peu aussi formé son caractère, cette volonté de liberté, être libre à tout prix. Je pense que quand elle sort vraiment de ces établissements, elle a envie de mener sa vie complètement différemment.
Et aussi la visite du Louvre, visite régulière du Louvre, va jouer beaucoup sur son attirance pour les images, sur sa formation. Peu de la vision.
Oui, au-delà des livres de photographie qu'elle regarde souvent quand elle est enfant, elle va beaucoup au Louvre quand elle retourne à Paris. Elle y va très régulièrement et par la suite, elle dira que c'est vraiment une des meilleures écoles pour un photographe. Notamment, je pense, par la composition des tableaux classiques qu'elle a pu observer et admirer au Louvre.
Et cette femme aura aussi une très courte carrière de mannequin. Elle est donc mannequin chez Madame Gray à l'époque, qui était une grande créatrice de mode de l'époque. Et ça, c'était une brève carrière, mais là encore, qu'est-ce qu'on sait de cette période ? Est-ce que...
C'était déjà, c'était une très belle fille.
Oui, bien sûr.
Donc, elle devient mannequin. Je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais en tout cas, c'est une voie de liberté pour elle. Donc ça lui permet d'être indépendante, de gagner de l'argent, être indépendante de sa famille. Donc elle reste 2 ans, elle travaille 2 ans en tant que mannequin, mais elle n'est pas du tout à l'aise dans ce métier. Elle n'a pas envie de rester de ce côté de l'objectif.
S'il y a des autoportraits,
c'est après. Elle restera son modèle, mais... elle n'a plus envie d'être mannequin. Oui. Mais c'est d'ailleurs par le mannequinat aussi qu'elle rencontre des photographes qui lui montrent le métier et qui montrent que la photographie peut être un métier. Donc c'est un peu une découverte pour elle aussi. Notamment un des photographes. Donc elle rencontre 3 frères Merlin, donc 2 photographes et 1 caméraman. Et donc celui qui est caméraman, il a travaillé sur un film qui s'appelle Section Anderson, un film documentaire sur la guerre du Vietnam. Elle voit ce film et c'est une révélation pour elle. Elle a envie de devenir caméraman, mais à l'époque, le matériel est extrêmement lourd, donc elle peut, elle comprend que physiquement, ça va être compliqué pour une femme de porter un matériel vidéo et de courir. Et donc, elle s'oriente plutôt vers la photographie.
Et donc la photographie donc de guerre s'impose à elle comme l'expérience la plus convaincante, vous le disiez, pour faire ses preuves et être crédible face à une agence de presse. Mais elle ne, donc le fait de vouloir partir à tout prix au Vietnam, bien sûr, il y a le contexte, il y a le moment, mais elle considère que cette expérience va la rendre convaincante pour pouvoir intégrer une agence comme Gamma.
Oui, c'est la fin des années 60. Mmh. Elle découvre le travail de Gilles Caron, qui devient pour elle vraiment un modèle. Gilles Caron, qui est membre déjà de l'agence Gamma, qui couvre tous les conflits de l'époque, la guerre des Six Jours, la guerre du Vietnam. Il va aussi en Irlande du Nord. Donc elle comprend qu'un photojournaliste sérieux doit faire aussi des sujets sérieux. Et donc c'est le moment de la guerre du Vietnam dont tout le monde parle. C'est vraiment une guerre très médiatisée. Et elle décide de se lancer faire ses preuves.
Oui. Mais en même temps, c'est qu'on comprend qu'elle ne veut pas se définir comme photographe de guerre. Comment est-ce que vous voyez cette tension? Elle veut absolument cette expérience, s'enrichir de cette expérience, mais elle ne veut pas être réduite à cette définition de photographe de guerre.
Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un peu paradoxal, oui. Parce qu'après la guerre du Vietnam, elle fait plusieurs autres conflits. Je pense que c'est sa vision qu'elle a portée dès la guerre du Vietnam, où on ne voit jamais de combat, on ne voit jamais de gens blessés, de gens mourants, on ne voit jamais de violence dans ses photographies. Donc ce qu'elle montre de la guerre, c'est plutôt les individus qui traversent ces conflits, les destins, mais aussi le contexte plus large, comme elle dit, les à côté. Et donc je pense que la photographie de guerre était vue à l'époque aussi comme à travers un prisme de combat et pour s'appeler, pour avoir ce titre photographe de guerre, il fallait peut-être montrer plus de d'actions,
des photos chocs,
des photos chocs, des photos sensations, ce qui n'est pas du tout son cas, mais pour autant elle a quand même passé des années dans des conflits dans des endroits avec des conflits.
Mais en même temps, parce que une agence comme Gamma, c'était le rôle à l'époque, voulait quand même des photos qui captent l'attention. Qu'est-ce qui fait qu'elle a pu, tout en mettant, en prenant les photos, comme vous dites, prendre surtout des photos de pas, au moins les plus calmes du conflit. On est en présence de personnes, donc on va parler bien sûr de ce qu'on voit dans cette exposition et les photos. Ce sont des photos de personnes qui sont prises au moment où entre deux combats, on peut dire, au moment où le conflit se calme à des instants.
Oui.
Comment fait-elle justement? Est-ce qu'on peut parler un peu de sa façon de faire, peut-être pas de méthodologie, mais comment elle s'approche, quelle est son approche à elle pour réaliser ce genre de photos?
Alors oui, si on regarde ces images, si on regarde cette exposition, on voit tout de suite quelque chose qui nous saute aux yeux, c'est les regards des gens. Et on voit vraiment une connexion qui se crée entre la photographe et la personne qu'elle photographie. Donc vraiment, c'est sa méthode, c'est de rentrer en contact, passer du temps, discuter, créer une relation de confiance avec les personnes qu'elle va photographier. Et c'est quelque chose qui est assez perceptible dans son travail.
Et est-ce que ça veut dire qu'elle passait sur le terrain, donc elle passait beaucoup de temps. Est-ce qu'elle explique un peu comment elle faisait? Quand on voit la force de ces photos, comment les regards nous transpercent, on voit le mystère des personnes au sens noble du terme, j'ai envie de dire. On a envie de savoir comment elle a fait sur le terrain pour arriver à ça. En travaillant donc sur les archives, en côté son fils, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
En tout cas, les grands reportages qu'on montre dans l'exposition, c'était des reportages de long terme. C'était toujours du temps long, c'est souvent plusieurs mois. Au Vietnam, elle passe presque un an. Au Yémen, elle passe plusieurs mois. Au Tchad, elle fait trois voyages à chaque fois de plusieurs mois. En tout, elle passe deux ans sur place. Afrique du Sud, elle y va tous les ans de 85 à 94. Donc, c'est des temps longs. C'est aussi une relation amicale souvent qui se crée avec les personnes qu'elle photographie.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
En compagnie de Victoria Areshiva, nous parlons donc de l'exposition Marie-Laure de Decker, l'image comme engagement, qui se tient donc jusqu'au 8 septembre à la Maison européenne de la photographie. Il y a aussi chez elle ce principe éthique qui est d'une part, donc on le disait, donc elle insiste beaucoup sur le fait de ne pas montrer de sang. Comme elle arrive à montrer donc un conflit finalement sans le montrer, et c'est comment vous voyez cette approche de pouvoir être au sein d'un conflit et de ne pas montrer le conflit finalement, mais tout en faisant comprendre qu'il y a un conflit, sentir qu'il y a un grand conflit.
Complètement. Déjà, ce qu'elle dit, c'est que les gens qui ont connu la guerre, ils savent que les combats, et ce que le public, enfin, les spectateurs des médias voient, c'est 5% du conflit. Les 95% du temps, c'est l'attente. Et c'est la vie, en fait, c'est les gens qui subissent, c'est la population, la société qui subit cette guerre, mais pas de manière à chaque fois spectaculaire et choc. Donc en fait, elle montre ces 95% de guerre. Tout ce qui accompagne, c'est la souffrance de la population civile, comme ce qu'elle montre au Vietnam, mais aussi, les destins, mais aussi ce qu'elle montre, c'est pas tant une photographe de guerre qu'une photographe de lutte. Elle montre aussi les gens en lutte pour l'indépendance, pour la liberté.
Et là, c'est là que ça rejoint ses convictions profondes.
Oui.
Justement, comme vous dites, davantage photographe de lutte que de photographe de guerre.
Oui.
C'est ça. Dans le cas du Vietnam, justement, vous l'avez souligné, on voit souvent des moments d'attente entre deux combats. Également, c'est sans doute sa réflexion sur le colonialisme, sans doute qu'il a fait, on suppose, penser aux relations entre l'armée américaine et les populations vietnamiennes. Là, on voit dans les photos les soldats avec les populations locales. Oui. Et on comprend qu'elle veut montrer cet échange.
Oui, quand elle part au Vietnam, elle fait partie de cette jeunesse progressiste. Elle a déjà photographié mai 68, donc elle y va avec un a priori très négatif de l'action américaine au Vietnam du Sud. Enfin, donc il y a forcément une vision critique a priori quand elle arrive. Et ce qu'on voit ensuite dans son travail, on voit cette emprise de l'armée américaine sur la population vietnamienne, notamment il y a cette série sur les filles des bars, donc sur les lieux de prostitution, sur les prostituées vietnamiennes, et en relation avec l'armée américaine. Et son travail, il est à la fois très critique, mais il y a quelque chose de très doux. Je pense que quand elle regarde les jeunes soldats américains, elle voit pas uniquement l'emprise américaine, mais elle voit aussi les individus. Et on voit cette, parfois, une douceur paradoxale qu'on retrouve chez les soldats américains sur ces photos.
Et elle dit pour elle, l'enthousiasme, entre guillemets, pour elle, nécessaire pour prendre des photos. C'est un aspect je crois que c'est dans à voix nue, les grandes émissions sur France Inter, on entend parler de l'enthousiasme. Elle dit que l'enthousiasme, c'est pour elle, l'enthousiasme, bien sûr, à l'intérieur d'elle-même.
Oui.
Donc cette envie d'entrer en contact avec l'autre qui est une condition pour prendre les photos également.
Oui, l'enthousiasme et l'amour des gens. En fait, elle a répété beaucoup, vraiment à multiples reprises, qu'elle aime les gens qu'elle photographie. Qu'elle adorait photographier toute personne sur Terre. Donc c'est vraiment une amoureuse des personnes, des humains. Et c'est ça qui définit un petit peu ses engagements, parce que c'est souvent à travers les relations humaines qu'elle découvre telle ou telle lutte, qu'elle adopte elle-même ensuite.
Victoria Areceva, dans l'exposition, il y a une série de photos prises en Jordanie. Ces photos-là, bien sûr, sont liées au conflit, à ce qui se passe, donc, à cette guerre en Palestine.
Ouais.
Est-ce que, donc, l'actualité d'aujourd'hui, vous avez posé des questions avant de montrer cette partie-là? Est-ce que le fait d'évoquer cette réalité, cette tragédie en Palestine, est-ce que ça fait ça vous porter à vous poser des questions? Est-ce qu'on en parle ou pas dans l'exposition? Bien, pour vous, c'était tout à fait normal.
Alors déjà, c'était une surprise pour moi de trouver ce reportage parce que je ne le connaissais pas du tout. Donc c'est en travaillant sur les archives que j'ai trouvé ces 5 planches contact qui montrent les camps des réfugiés palestiniens en Jordanie. Et pour moi, c'était vraiment une découverte. Et il n'y avait aucun doute qu'il fallait le montrer aujourd'hui. Mmh. Je pense que si, l'intérêt de montrer cette exposition, c'est évidemment montrer le travail extrêmement fort et important de Marie-Laure Decker, mais aussi montrer ces conflits et montrer le fait que ces conflits et ces luttes perdurent jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'était clairement un exemple d'un conflit qui dure depuis les années 40. Mmh. Ce qu'elle montre, nous, dans ces photos, c'est surtout les réfugiés, c'est les enfants, principalement, ce qu'elle photographie, en 73. Donc déjà en 73, ça fait plus de 20 ans que les Palestiniens sont partis de leur terre. Et cette situation dure encore. Et donc montrer ce document historique important était indispensable pour moi, justement, dans cette exposition.
Et vous souhaitez la présence des enfants. D'ailleurs, les enfants sont souvent présents dans ces photos de façon générale.
Oui. Oui. Il y a des Vietnams. On voit son intérêt pour les enfants. Elle photographie beaucoup les enfants. Elle fait les portraits. C'est quelque chose qui, revient souvent dans son travail. Oui.
Alors, on parlera un peu donc du travail de préparation de cette exposition, mais avant d'aller plus loin, quelle est dans l'exposition la proportion de photos qui étaient déjà connues et des photos inédites dans l'ensemble? Comment est-ce que vous avez fait cet équilibre?
Alors déjà, il y a des tirages qui existaient et il y a des nouvelles productions. On a fait des nouveaux tirages. Je dirais que c'est presque la moitié. C'était assez audacieux de produire des tirages posthumes, mais c'était important parce que la majorité des archives, c'était des négatifs. Et donc, moi, j'ai travaillé à partir des planches contact pour faire cette sélection. Donc, forcément, parfois, on produisait les images qui étaient connues, mais pour lesquelles il n'y avait plus de tirage. Mais je dirais, peut-être il y a 20% des images qu'on n'a jamais vues. Mais c'est difficile à quantifier exactement. Des images inédites, et c'était l'enjeu aussi de l'exposition.
Je rappelle donc l'exposition Marie-Laure de Decker. On continue à en parler avec vous, Victoria Areceva, commissaire de l'exposition. L'image comme engagement, c'est donc jusqu'au 28 septembre à la Maison européenne de la photographie.
Never and never again shall it be that this beautiful love will again experience the oppression of one by another.
The revolution was hard. Days were dark. We made our mark. So we gotta pay our part. The revolution was hard. Days were dark. We made our mark. So we gotta pay our part.
Ah, excellent. Finally a black president to represent. I know it, so I speak it. I saw it, so I rip it. The poet will freak it when I flow with the beat. So I dedicate this to those who are down with the revolution. All over the world and never schools it. I dedicate this to those who are down with the struggle. G, even when things got ugly. Cause the black race always at a slap face. Cause freedom moves at a whack place. It sometimes takes a miracle to see my people free. Cause it's not done easily. So I dedicate this to those who don't turn the other cheek. And to those who would rather speak against colonialism, imperialism, and racism. So I'm bringing it back to the basics. And I know that those who support the struggle locally, I support your struggle globally. So thank me and thank you, and we stand true. But if you're not down, then damn you.
Always Power data a fin drop 94. POC now go pop 94. Roots and culture now go stop. Black people in Brazil, them not yet free. Black people in Australia, them on liberty. Study back history and you will see. Alone into Gardenia to get victory. Africa rejoice, raise your fist, raise your voice. Africa, bring the north, cause you made your choice. Cause ever since the oppressor came here, he messed up the Zania. Made you space and even great, yeah. But I made my axe on a paper. So Mr. Oppressor, I guess I see your ass later, alligator. Cause the struggle was tough in a red race. What a feeling to see a smile on a black face. Throw your fist in the air and to the people over here and over there. And if you're ready to diss a right-wing racist, show a gas face and say, yeah!
We understand it. Still, but there is no easy road to freedom. Let there be justice for all.
Oh, what a day we had a price to pay. But anyway, we gotta move on, we gotta move strong. Because I'm black to the bone, we gotta build our home. Being home alone without mama and papa means I cannot grow up proper. So we gotta offer quick and take it to a level then bold. A Zania, the new world for the sake of our children.
Pump it up, pump it up, hey!
Stand up, get up, stand up. Do you see the change? Do you feel the change? If you see the change, you got to rearrange your mental state. Books and pens are great now. Knowledge awaits the seeker, the believer, digging deeper will become the achiever. The achiever's gonna pass it on. Knowledge yourself is gonna make us strong. You made the choice to do the vote. Mandela spoke and said,
never again.
Yes, yes, sure.
We should help the man and make sure that the future stays secure. Oh. There's one thing we'd like to say to everybody that supports South African the struggle, and that is
thank you, man.
Écoutez Allegre FM 93.1.
Prophets of Dacity, le titre du morceau Never Again sur Allegre FM 93.1. Groupe de rap sud-africain formé en 1988, l'un des groupes pionniers d'ailleurs du rap en Afrique. Never Again est le titre du morceau avec la voix de Nelson Mandela. Les dernières années de l'apartheid en Afrique du Sud, de 1985 à 1994, occupe une grande place dans l'exposition « L'image comme engagement ». Et donc, je cite Marie-Laure de Decker, « J'ai beaucoup souffert en Afrique du Sud. Tous les jours, vous assistez à l'injustice. J'avais du mal à sortir de mon lit le matin, car je savais que j'allais me confronter à l'indicible. » Citation que vous reprenez, Victoria Arecheva, donc dans le catalogue de l'exposition, je rappelle, qui se tient jusqu'au 28 septembre à la Maison européenne de la photographie. Bien sûr, l'Afrique du Sud, les photos d'Afrique du Sud sont... Il y a une photo d'Afrique, prise en Afrique du Sud qui me frappe tout particulièrement. On voit deux ou trois personnes, hommes, femmes, sans doute des travailleurs, dans un bus. La photo est prise à l'extérieur, et donc à travers la vitre. Et on voit la détresse de ces personnes qui est extraordinaire, qui pour moi dit tout de ce pays. Je trouve cette photo extrêmement forte.
Ouais, ouais. C'est une photo qui s'appelle « Sortie d'usine ».
Sortie d'usine, oui.
Ou « Sortie des mines ». Maintenant, j'ai un doute, parce que je crois que c'est surtout... c'est « Sortie des mines ».
Il y a des mines juste à côté
la
aussi.
La mine, oui, exactement. Elle a beaucoup photographié les travailleurs, travailleuses, notamment en Afrique du Sud, et... Un grand reportage est dédié aux mines d'or, où elle photographie les mineurs, où elle descend dans les mines, dans ces endroits exigus, dans ces couloirs, pour photographier les mineurs. Et c'est uniquement les personnes noires, évidemment. C'est une série sur laquelle elle porte vraiment un discours critique, enfin, un discours critique sur la condition du travail. Elle est absolument bouleversée par cette injustice que vivent les personnes, les mineurs, qui qui subissent des conditions absolument atroces, une chaleur extrême, les heures de travail très très longues, une incapacité de devenir, d'être promu. Donc c'est, oui.
Il y a un autre pays qui occupe une place importante pour Marie-Laure Dedeker, c'est le Tchad. Alors on va en parler en commençant par l'affaire Françoise Claustre, que je résume, hein, qui est donc une archéologue française en mission au Tibesti, dans le nord du Tchad, qui est kidnappée le 21 avril 1974 et retenue en otage durant 3 jours. Donc là, c'est cet événement qui l'a fait, qui l'a mis en contact avec ce pays. Racontez-nous un peu ce, cette
Alors,
situation.
Alors, oui, l'otage est retenu pendant 33 mois.
33 mois, pardon. Oui. 33 mois. C'est pas la même chose.
C'est ça, oui. Ouais. Oui, elle découvre le Tchad par cette affaire-là. Donc en 1974, cette archéologue française est retenue en otage par, par le Frolina, les révolutionnaires du Frolina. C'est les révolutionnaires du nord du Tchad qui sont en lutte armée contre le gouvernement du sud, qui, depuis l'indépendance du Tchad en 1960, est en coopération avec la France. Et donc ce gouvernement sudiste discrimine les populations du nord. Donc le nord, les régions montagneuses de Tibesti où habitent les Toubous. Et donc cette population est en lutte armée, mais cette guerre civile, guerre pour l'indépendance du Tchad n'est pas du tout, n'intéresse peu la France, n'intéresse peu le monde. Donc ils décident de prendre en otage cette archéologue française et 2 autres personnes. Il y a aussi un Allemand et un autre Français. Ils demandent la rançon, ils demandent les armes, ils demandent aussi de médiatiser cette affaire. L'Allemand, l'otage allemand est libéré tout de suite parce que l'Allemagne paye la rançon tout de suite. Le deuxième otage français s'évade, donc il y a juste Françoise Claustre qui reste et qui est un peu oubliée parce que la France n'a pas intérêt à parler de cette lutte entre le Sud qui coopère avec, avec le gouvernement français et ses indépendantistes du Nord. Et donc c'est le mari de Françoise Claustre, Pierre Claustre, qui va œuvrer pour la libération de sa femme. Donc, il se met en contact avec les révolutionnaires du Frolina, donc, Front National de Libération du Tchad. Eux, ils demandent les armes et une médiatisation. Ils veulent que les journalistes viennent pour parler de leur cause. Donc Pierre Claustre vient apporter les armes et il s'adresse à l'agence Gamma pour faire une interview et faire un reportage sur cette prise d'otage. Donc c'est Romain Depardon et Marie-Laure Dedeker qui vont au Tchad. Ils passent 3 mois avant de rencontrer Françoise Claustre. Donc ils rencontrent les 2 leaders du Frolina, Hissène Habré et Gokouni Wadey, qui ne laissent pas tout de suite les journalistes accéder à l'otage. Donc ils les font attendre, ils les font marcher, ils marchent. C'est des marches interminables dans le désert, d'un campement à l'autre. Et au bout de ces 3 mois, ils rencontrent l'otage, ils font l'interview, et Marie-Laure fait elle photographie Françoise Claustre. Et au retour en France, ils sont arrêtés au Niger. Leur avion s'arrête au Niger, ils sont contrôlés par les douanes qui découvrent une étiquette des armes que Pierre Claustre a fait venir à l'aller. Et donc ils sont arrêtés, leurs pellicules sont saisies et les journalistes perdent complètement tout leur matériel et Marie-Laure Dedeker perd 40 de pellicules. Donc c'est un échec total, ils sont obligés d'y retourner, ils retournent la 2e fois, c'est un peu la même histoire, ils passent 5 mois avant de rencontrer Françoise Claustre. Et donc ces 5 mois, du premier voyage mais aussi du 2e, ces longs mois font que Marie-Laure Dedeker découvre cette lutte et elle devient leur alliée. En fait, elle découvre la cause qu'elle commence à porter au même titre qu'elle œuvre pour la libération de l'otage.
Et alors ça va plus loin parce qu'en quelque sorte le Tchad va devenir son pays d'adoption puisque donc à un moment elle va c'est en revanche elle fait un 2e voyage beaucoup plus tard, c'est en 2000 elle parvient avec les Roudabé,
oui.
Une tribu donc, du sud du Tchad, dont la survie était menacée par la guerre en Centrafrique. Là, c'est un autre moment, c'est une autre situation, c'est ça. C'est à ce moment-là qu'elle en fait vraiment un territoire d'option.
Oui, mais même avant okay. ça, même quand elle va au Tibisti, elle retourne la troisième fois, elle passe encore 8 mois uniquement, Françoise Claustre est déjà libérée, et elle retourne pour photographier la lutte du peuple tchadien, des Toubous. Et d'ailleurs, c'est par cette amitié avec les Toubous que, dans les années 2000, elle rencontre ce peuple nomade qui s'appelle Roudabé, qui habite pour le coup au sud du Tchad, sur le territoire du Sahel, sur plusieurs pays, sud du Tchad, sud du Niger. Et oui, c'est une nouvelle histoire d'amour pour elle. Enfin, elle découvre une autre partie du Tchad et en 2000, elle va pour la première fois, elle passe plusieurs mois avec ce peuple et elle y retourne tous les ans. Et donc tous les ans, elle va passer des mois. Vraiment avec ces gens.
Et là, bien sûr, il y a des photos admirables de ces moments-là, des photos vraiment extraordinaires de soldats armés, toujours avec, comme vous l'expliquez, Victoria Recheva, cette préoccupation de l'autre, le temps de regarder l'autre, d'entrer dans le regard de l'autre. Et donc là, on a l'impression que là, il y a comme un pas qui est franchi. Elle n'est pas seulement, elle est plus que photographe, elle prend position, elle est engagée à côté de ces personnes armées qu'elle photographie.
Oui. Donc là, on est dans les années 70, Tibisti. Mm-hmm. En attendant la rencontre avec Françoise Claustre, mm-hmm. elle se lie d'amitié avec les Toubous. Elle porte leur lutte à travers son appareil photo. Ils étaient très étonnés quand elle est revenue après la libération de Françoise Claustre, parce qu'ils disaient, une fois que votre otage blanche est libérée, vous vous désintéressez de nous. Mais ce n'était pas du tout dans le caractère de Marie-Laure de Decker. Elle s'est vraiment engagée pour cette cause-là, et donc elle revient. Une fois que l'otage est libéré, elle passe encore 8 mois et elle photographie les combattants, mais aussi leur famille, les enfants, la vie quotidienne. Et elle en fait un livre. C'est le premier livre qu'elle publie, qui s'appelle « Pour le Tchad ». Et comme son titre l'indique, c'est le travail qu'elle fait pour les Tchadiens. C'est vraiment un peu elle l'offre, ces photographies, pour les générations futures, pour garder la trace de ce moment historique de lutte du peuple tchadien pour son indépendance. Et elle en fait vraiment, c'est un travail très engagé. Il n'y a aucun doute de quel côté elle se situe. Il n'y a pas vraiment de neutralité. Elle magnifie ses combattants. Elle fait une série célèbre où elle fait des portraits de combattants sur un fond blanc. C'est les combattants...
Magnifique, cette photo.
Oui, c'est...
Sublime.
Vraiment une série incroyable, très très belle. Et elle l'a fait à la demande des combattants qui veulent être photographiés comme dans un studio. Et donc elle improvise un studio avec un drap accroché à un rocher et fait des portraits identiques des soldats, des combattants tchadiens avec leurs armes, tout fiers, très beaux, très hiératiques. Ces photos, elle les tirait toujours en très grand. Donc c'est vraiment comme des grandes affiches. Donc c'est presque une dimension de propagande qu'elle mène. Enfin, c'est vraiment, elle est leur alliée. Hein. Et d'ailleurs, il y a une photo d'elle qui était utilisée pour un poster anti-colonial pour le Frolina.
Et aussi, elle l'a fait dans la volonté de que ces personnes, que ces hommes et ces femmes, ces combattants surtout, plus monter aux générations futures qu'ils ont vraiment combattu.
Oui.
Il y a aussi cette...
C'est ça. C'est très beau, cette idée de transmission d'une lutte pour l'indépendance pour les générations suivantes.
Et alors là, à ce moment-là, donc Marie-Laure de Decker, ces photos, c'est une action vraiment personnelle. Il n'y a pas une agence derrière ou quoi que ce soit. Elle ne répond pas à une commande. C'est vraiment, ça concerne son engagement personnel, sa décision personnelle, son choix personnel.
Tout à fait. Si l'affaire Françoise Claustre, c'est clairement une commande de Gamma, et ce reportage, vraiment autour de l'otage, est publié énormément, partout en France, mais aussi à l'étranger. Ce reportage sur les combattants tchadiens, sur cette lutte pour l'indépendance, ça n'intéresse pas tant les médias, à l'exception de quelques médias de gauche, vraiment, qui portent aussi, qui publient ce travail-là.
Donc là, nous avons parlé donc de lutte et de guerre, mais Marie-Laure de Decker a également s'est intéressée, d'une part, on l'a vu, aux conditions de travailleurs. Il y a des photos prises dans les usines Renault notamment. Également, elle s'est préoccupée aussi de la santé des hôpitaux. Et donc cette période-là, c'est qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette démarche qui consistait donc justement à s'occuper donc d'une part des travailleurs, qui est, là on n'est plus dans la lutte armée ou la guerre, et également de la question de la santé des gens, également de la protection de l'environnement. Puisqu'il y a des photos qui portent sur... sur un pétrolier, qui, le naufrage d'un pétrolier, je crois.
Oui, sur une marée noire.
Une marée noire, voilà, cherchez le mot.
Oui, elle porte plusieurs sujets sociaux et politiques. Notamment, elle s'intéresse beaucoup au monde du travail. Et comme toujours, c'est l'individu qui l'intéresse. C'est vraiment les portraits de travailleurs et de travailleuses. Elle en fait tant dans le cadre des commandes, comme celle que vous avez mentionnée, où elle photographie les ouvriers de l'usine Renault. Enfin, c'est une commande. Mais elle s'intéresse aussi à ce thème-là dans le cadre des reportages plus larges, par exemple en Afrique du Sud, au Mozambique, en Russie, au Yémen. En Afrique du Sud, elle fait un travail notamment autour du travail féminin. Elle photographie ces nounous noires qui s'occupent des enfants blancs, ou elle photographie les paysannes noires dans les champs de coton. Et ces images vraiment assez incroyables qui nous renvoient à cette iconographie de l'esclavage de la fin du 19e siècle aux États-Unis. Donc oui, il y a une forte dimension sociale, critique dans ce travail autour des travailleurs. Le thème des hôpitaux aussi, c'est quelque chose qui apparaît régulièrement. Elle a beaucoup photographié les enfants dans un hospice franco-vietnamien quand elle était au Vietnam. Et puis c'est un sujet qui s'est reproduit à plusieurs reprises dans des reportages en Chine. Elle a fait aussi un reportage sur une léproserie en Grèce. Elle a photographié les enfants aveugles en Bourgogne. Ce thème de santé, de l'hôpital, revient assez souvent.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Culture, société, création, en version originale, Patrick, Léon-Émile.
En compagnie de Victoria Arécheva, nous parlons de l'exposition Marie-Laure de Decker, L'image comme engagement, c'est donc jusqu'au 28 septembre à la Maison européenne de la photographie. Autre aspect, autre sujet de Marie-Laure de Decker aussi, c'est les portraits de personnes célèbres. Alors là, est-ce que vous voyez donc, là on part dans un registre complètement différent, on laisse bien sûr la lutte, la guerre, les travailleurs, les hôpitaux, pour parler donc de personnes célèbres qu'elle a photographiées, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Catherine Deneuve, le réalisateur Wim Wenders, Man Ray, Duchamp. Est-ce que là, vous voyez le même regard porté sur les personnes ou pas? Est-ce qu'il y a une différence?
Je dirais que c'est le même, parce que l'humain, vraiment l'intérêt, l'amour pour l'humain, pour le visage humain, enfin, vraiment c'est quelque chose qu'elle répétait souvent. traverse vraiment tout son travail. C'est un peu l'essence de ce qu'elle fait. Et je dirais même que les individus l'intéressent plus que les événements historiques aussi, et leur fonction aussi. Et dans l'exposition, on a réuni les portraits tant des gens ordinaires que des grandes figures de la seconde moitié du XXe. Et oui, ces portraits des gens célèbres, c'est quelque chose qu'elle commence assez tôt. D'ailleurs, ses toutes premières photographies, c'est des portraits des surréalistes, des artistes surréalistes qui sont déjà âgés. Donc c'est Man Ray, Hans Bellmer, Marcel Duchamp. C'est des personnes qui sont déjà moins, qui attirent moins d'attention médiatique, mais elle les admire, elle a envie de les photographier, et c'est quelque chose qu'elle commence et qu'elle poursuivra toute sa vie, photographier les grandes figures de la culture qu'elle admire, mais aussi de la politique. Donc il y a évidemment de la commande là-dedans, parce que les portraits, c'est quelque chose qui fait vivre le photographe, c'est quelque chose qui est beaucoup publié, mais elle a aussi photographié les gens parce qu'elle avait envie. Elle proposait à des personnalités, des grandes personnalités issues de la culture, de faire leurs portraits parce qu'elle avait envie de les immortaliser.
Bien sûr, il y a une photo de Mandela également. Ça, c'est dans les personnalités célèbres, il y a Nelson Mandela qu'elle a photographié.
Oui, elle a dit que Mandela, c'était sa personne préférée au monde. Donc elle a fait beaucoup de portraits de Mandela. Nous, on en montre un. Et d'ailleurs, en 94, quand Mandela a été élu, pour elle, c'est un grand moment. Historique, mais aussi, je pense, personnel, qu'il la sauve un peu. Parce que juste avant, elle était dans elle est allée en guerre en Bosnie, et c'était une guerre extrêmement violente, extrêmement dure, en 93, et donc 94, l'élection de Mandela, c'est quelque chose qui la soulève, qui la porte,
Est-ce qu'on lui connaît d'autres combats en dehors de la photographie? Je veux dire, par là, est-ce qu'il y a eu d'autres engagements qui n'impliquait pas le fait de les photographier?
Je pense que la photographie, c'était vraiment toute sa vie.
Tout s'est passé par la photographie.
Elle a dit d'ailleurs que s'il n'y avait pas la photographie, elle n'aurait pas vécu toutes ses vies, tous ces événements. Donc oui, tout passe par son appareil, tout passe par son regard, qui l'accompagne, l'appareil photo l'accompagne partout.
Victoria Areceva, dans l'exposition, c'est intéressant puisqu'il y a une partie où on voit donc tous les cartons d'archives empilés, bien rangés bien sûr, mais on les voit. On a qu'une envie, c'est de les ouvrir, de regarder ce qu'on ne peut pas faire. Alors, c'est une façon de vous faire parler de la façon dont vous avez préparé ce projet. Donc, déjà, un projet d'archivage entrepris en l'absence de la personne concernée, Marie-Laure de Decker elle-même, est-ce que ça comporte une part de risque? Comment est-ce qu'on fait ce travail-là?
D'ailleurs, l'idée de l'exposition date... Marie-Laure était encore en vie. Moi, j'ai pu la rencontrer, c'était un moment très émouvant. Pour revenir un peu à la jeunesse de l'exposition, il y a un peu plus de deux ans et demi, c'est le fils de Marie-Laure de Decker, Pablo Saavedra de Decker, qui est venu rencontrer Simon Baker pour lui parler du travail de sa mère et proposer une exposition entre Marie-Laure et un autre photographe. Et donc, c'est à ce moment-là où Simon Baker était très intéressé, était très enthousiaste, mais il s'est dit, il faut qu'on montre... il faut qu'on fasse une grande rétrospective sur les deux étages, il faut qu'elle soit toute seule mise à l'honneur. Et il m'a missionné pour aller voir ce fond. Et donc, si cette exposition est possible aujourd'hui, c'est aussi grâce au travail de Pablo, qui a commencé à ranger et à classer les archives pendant le confinement, en 2020. Il a passé 2 ans et demi à tout bien rangé dans les boîtes, selon les lieux géographiques, la chronologie. Donc tout était très bien préparé pour que la MEP, pour que moi, je puisse travailler à partir de ces archives. Mais et pour la MEP. Enfin, pour la MEP, c'était vraiment la première fois que l'exposition était réalisée à partir des archives externes et aussi en absence de la photographe. Parce que moi, j'ai pu la rencontrer, j'ai passé 3 jours avec elle.
Racontez-nous, comment, oui. Quel souvenir vous gardez de Marie-Laure de Decker?
Alors, c'était quelqu'un très fort, quelqu'un qui intimidait. Moi, j'étais assez intimidée. Enfin, un regard qui
transperce. Vous avez raconté chez elle, dans le sud de la France?
Oui, c'est ça. Sa maison est à Rabastens, où elle gardait toute son archive. Et donc, j'ai pu la rencontrer, discuter avec elle. C'était une conteuse incroyable. Elle racontait, elle aimait beaucoup partager les histoires de ses reportages, ses voyages, les gens qu'elle rencontrait, donner des dates précises, des noms. Enfin, c'était, elle était, enfin, c'était passionnant. J'aurais pu écouter ces histoires. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a laissé une autobiographie. On entend vraiment sa voix, on sent son parler, qui n'est pas encore publié, mais j'espère qu'il sera publié bientôt.
Et quand vous l'aviez rencontrée, elle, est-ce qu'elle prenait encore des photos?
Non. Elle avait déjà une santé fragile. Mmh. Et donc moi, quand j'étais partie, 3 semaines plus tard, je découvre dans la presse qu'elle nous a quittés.
Donc c'était en 2023?
C'était en 2023. D'accord. Donc c'était vraiment un choc. Et j'ai mesuré vraiment à quel point j'ai eu la chance de la rencontrer, de l'avoir connue.
Vous pouviez voir à l'époque encore ces appareils photos? Elle vous en a parlé de ces appareils photos ou autre chose?
Alors, elle n'a pas parlé des appareils photos, mais en tout cas, nous, on montre les appareils. Vraiment, même le premier appareil photo qu'elle a acheté à la fin des années 60 et qu'elle a gardé toute sa vie. Enfin, elle a toujours utilisé les Leica, et donc on montre 3 appareils photos très anciens qu'elle a utilisés toute sa vie.
Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, de ce qui l'intéressait quand vous l'avez... Même si elle vous a sans doute parlé, bien évidemment, de sa vie, de ce qu'elle a réalisé. Est-ce qu'elle s'intéressait au monde d'aujourd'hui? Est-ce que vous en avez pu parler? Est-ce que vous en souvenez?
Ouais. Je me souviens qu'on a parlé, c'était le moment de la mort de Naël.
D'accord.
Et
donc,
en
juillet de 2023, par là.
Fin juin. C'était vraiment pile il y a un an. Mm-hmm. Et je me souviens qu'elle a dit, mais c'est tellement important, c'est tellement bien que cette scène a été filmée. Et que là, le rôle de l'appareil photo, d'une caméra... pour montrer cette injustice. Donc c'est clairement, ça a été fait par un anonyme, c'est pas du tout, c'est d'ailleurs ça aussi le problème pour la photographie, pour le photojournalisme aujourd'hui, parce qu'il y a aussi les anonymes qui apportent beaucoup de témoignages. Mais on a parlé en tout cas de l'importance de ce témoignage et de...
De cet événement et de ça, du fait qu'elle a été filmée.
Absolument. D'accord. Et je me souviens, elle a beaucoup parlé de l'antiracisme, du racisme présent dans les années 70. Elle revenait souvent sur ces questions-là, mais aussi aujourd'hui. C'est un combat qu'elle portait toute sa vie.
Et vous, quand vous l'aviez rencontrée, vous aviez l'impression que le goût de la photographie était encore en elle, qu'elle aurait aimé voulu prendre des photos, qu'elle en voulait. Quel était le rapport avec la photographie quand vous avez
J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'elle a laissé.
Qu'elle
avait laissé de côté, oui. Elle avait des. Lors d'un voyage chez les Boudabé en 2007, elle a eu un grave accident, après lequel elle a eu des problèmes de santé, notamment des reins, et donc elle a suivi des dialyses, des années de dialyses, donc qui l'épuisaient. Complètement, elle pouvait plus photographier vraiment. Elle allait un peu mieux en 2013-2014. Elle est parvenue de revenir au Tchad pour voir les Boudabé. Donc c'était vraiment ça, quelque chose qui portait sa vie. Et puis c'est vraiment, on peut dire que c'est la dernière année où elle prend des photos, c'est 2014.
Victoria Arecheva, merci pour cette exposition. Merci d'être venue à l'antenne d'Aligre FM. Je rappelle donc l'exposition « L'image comme engagement », donc le photographique de Marie-Laure de Decker. C'est donc jusqu'au 28 septembre à la Maison européenne de la photographie. Merci encore.
Merci pour votre invitation.
Amis auditeurs et auditrices, je vous remercie de nous avoir écoutés. C'est René Clancy qui était à la réalisation technique ce soir. Merci beaucoup. Dans un instant, vous retrouverez Dancehall Reggae Vibes et à 22h30, Audiométrique. Passez une bonne soirée à l'écoute des émissions d'Aligre FM. Je vous retrouve samedi prochain à 19h pour une nouvelle édition de VO. Bon week-end, bonne semaine, à bientôt.
Version originale, Patrick, Léon Émile.
Waking up in cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got you in the baby on my bitches doing long shit. She hit my line.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.